Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 12 juillet avec le journal de Mariam El Kurdi. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec un chiffre.
Des centaines de millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Rapport alarmant de l'ONU, la faim chronique a encore augmenté pendant la pandémie. Au sommaire également ce soir, la menace du variant Delta en France fait grimper le nombre de personnes contaminées au virus de la Covid. Nous irons à Lacanau, en Gironde, où un hôtel a dû fermer en catastrophe. Face à la menace de la quatrième vague épidémique, quelles mesures ? Le président de la République doit s'exprimer ce soir à ce sujet à 20h. Emmanuel Macron, qui a reçu les professionnels de l'automobile pour parler transition écologique, nous y reviendrons. Enfin, direction le Festival de Cannes, marqué par l'absence du cinéaste russe Kirill Serebrennikov. Il purge une peine de prison en Russie.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir, alors que les sauvetages en mer, dans le meilleur des cas d'ailleurs, ont repris en Méditerranée, alors que 112 migrants aujourd'hui même ont passé la barrière de Ceuta une nouvelle fois, on va s'interroger sur une agence européenne de l'asile sur laquelle les Européens ont fini par se mettre d'accord, reste à la ratifier. On verra ce que ça change dans notre prise en charge des migrants. 19h20, c'est le téléphone sonne. On ne va pas faire de conjectures inutiles sur ce que pourrait dire Emmanuel Macron à 20h, mais on peut s'interroger sur ce qu'il ne peut pas dire sans mettre le pays sans dessus-dessous. Où est sa marge de manœuvre? Comment lutter contre ce fichu variant Delta avant qu'il ne soit trop tard? Allez-y, le standard est ouvert et le numéro, c'est le 01 45 24 7000.
France Inter.
La faim dans le monde, donc, s'est fortement aggravée.
Conséquence notamment de la pandémie mondiale. Un rapport de la FAO, l'Agence spécialisée des Nations Unies, vient d'être publié. Conclusion, en 2020, entre 720 et 811 millions de personnes ont souffert de la faim, soit une hausse de 18% par rapport à l'année précédente. Jérémy Lanche, vous êtes à Genève. Selon le rapport, 10% de la population a souffert de faim chronique dans le monde.
Éradiquer la faim dans le monde d'ici à 2030 était déjà largement compromis avant la pandémie. Depuis, l'objectif affiché par l'ONU est devenu intenable. La crise du Covid, qui s'est greffée aux conflits et aux catastrophes climatiques, a plongé 118 millions de personnes supplémentaires dans la faim en 2020. En un an, l'insécurité alimentaire a plus augmenté que lors des 5 années qui ont précédé. De quoi susciter la colère du patron du programme alimentaire mondial, David Beasley.
With all the wealth. Avec tout l'argent qui a été amassé pendant la pandémie, le simple fait qu'on soit obligé d'implorer pour lutter contre la faim est une honte. Je suis très content que le secteur privé puisse envoyer des fusées dans l'espace, mais bon sang, nous avons une crise ici, sur Terre. Pendant qu'on parle, des enfants meurent de faim chaque jour. 3 millions de personnes sont mortes du Covid l'an passé. 9 millions sont mortes de faim. Et ça pourrait être 2 ou 3 fois plus cette année si nous n'agissons pas.
Derrière le constat plein d'amertume, il y a de grandes disparités selon les régions. Si la faim a progressé partout, y compris en Europe, elle augmente 2 fois plus vite en moyenne en Afrique. 1 Africain sur 5 ne mange pas à sa faim aujourd'hui. D'après les projections de l'ONU, l'Afrique devrait être le seul continent à voir la faim continuer de progresser dans les 10 prochaines années. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Ils sont excédés par la crise économique qui frappe leur pays. Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue au cri de « Vive la liberté, à bas la dictature ». En réponse, le gouvernement cubain affirme qu'il veut défendre la révolution coûte que coûte. Le président américain Joe Biden appelle le régime cubain à entendre son peuple. Mais son homologue cubain Miguel Díaz-Canel accuse les États-Unis de mener, via les sanctions américaines, une politique d'asphyxie économique pour provoquer des troubles sociaux et un changement de régime sur l'île. Nouvelle vague de chaleur et feux de forêt dans l'ouest des États-Unis et au Canada. Les températures peuvent aller jusqu'à 52-54 degrés dans la vallée de la mort en Californie. La dernière grosse vague de chaleur date d'il y a moins de 3 semaines. Elle avait entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes, Fabienne.
Retour en France, principale menace qui nous guette donc en pleine vacances d'été, le variant Delta.
Oui, le variant plus contagieux, il circule à une vitesse grand V et fait grimper le nombre de contaminations. À Lacanau, en Gironde, au moins 2 foyers de contamination ont été découverts dans un hôtel et au sein de l'équipe des maîtres nageurs sauveteurs de la cité balnéaire. L'alerte a été donnée ce week-end après la découverte de 3 cas positifs au sein du personnel de l'hôtel Vital Park et 5 dans l'équipe des maîtres nageurs. L'hôtel a donc décidé de fermer ses portes pour 1 semaine. Les clients ont été priés de quitter l'établissement le plus vite possible. Un coup dur pour tout le monde alors que la saison estivale commence tout juste, Stéphanie Scock.
C'est la tuile pour le patron de l'hôtel. Alors que son établissement affichait enfin complet samedi après-midi, il a décidé de mettre tout le monde dehors. Jean-Michel Cesalori.
La décision a été prise à la connaissance du troisième cas sur les coups de 17h samedi soir. On a 58 chambres, on était complet. Il a fallu annoncer à tous les clients qui étaient là depuis déjà quelques jours, puis tous ceux qui arrivaient, qui ne pouvaient pas rester dans l'établissement par prévention. Et globalement, c'est effectivement un crève-cœur de dire aux gens qu'on ne peut pas les accueillir parce qu'on préfère jouer sur la sécurité et la santé plutôt qu'autre chose.
25 salariés de l'hôtel sont cas contact. Tous ont été invités à se rendre au centre de dépistage de Lacanau pour un premier test. Ces deux employés ressortent avec un premier résultat négatif.
Moi, je suis la gouvernante et dans mon équipe, il y a une femme de chambre qui était Covid. Et donc, de suite, le patron nous a dit d'arrêter de partir sur le champ.
On pouvait se douter qu'effectivement, avec la haute saison, il y allait avoir des cas.
Ça m'étonne pas, depuis le temps qu'ils sont confinés, ils en profitent, mais après ils font pas attention. Moi j'ai des enfants, donc voilà, moi je suis testée. Là depuis vendredi, je suis éloignée d'eux. Donc voilà, moi ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est qu'ils fassent attention, même s'il faut en profiter, mais faire attention quand même.
Le maire de Lacanau, Laurent Pérondet, demande à ses administrés ainsi qu'aux estivants d'être plus vigilants face au virus. Il promet aussi un renforcement des contrôles des règles sanitaires dans les établissements qui accueillent du public, et notamment le soir dans les bars.
Et l'Agence régionale de santé propose aux habitants saisonniers et touristes de se faire dépister. Au sein de la salle communale de Lescour, le variant, je vous le disais, continue de circuler. Les chiffres du Covid repartent à la hausse. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a eu hier 4256 nouveaux cas enregistrés en France, contre 2549 il y a une semaine. Le chiffre pourrait monter à 6000 dans une semaine, 10000 dans 15 jours. Dans ce contexte, discours très attendu ce soir d'Emmanuel Macron à 20h. Le président doit présenter des mesures pour affronter le variant Delta. Il devrait surtout détailler les mesures validées en Conseil de défense à l'Élysée sur une éventuelle obligation vaccinale pour les soignants ou une extension du pass sanitaire. On y reviendra dans le journal de 19h et avec vous Fabienne dans le téléphone sonne. Et vu le contexte sanitaire, le défilé du 14 juillet aura bien lieu à Paris, mais en petit comité et dans le respect de règles sanitaires. Masque et pass sanitaire obligatoires pour assister à la cérémonie, Margot Steve.
Tout le monde ne pourra pas venir voir le défilé sur les Champs-Élysées. D'abord parce qu'une jauge sera mise en place, il est donc recommandé de venir tôt. Ensuite parce que l'accès se fera uniquement sur présentation d'un pass sanitaire, soit 2 semaines après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin, soit avec un test négatif de moins de 48 heures. Une fois entré sur le périmètre, il faudra porter le masque. Interdiction d'amener de l'alcool ou des artifices. Des fouilles et des palpations de sécurité seront pratiquées pour s'en assurer. Dans cette zone, les véhicules motorisés seront interdit à partir de 6h30 du matin jusqu'à 14h. Pour y aller en métro, il faudra marcher un peu. Plusieurs stations seront inaccessibles entre le jardin des Tuileries et la place de l'Étoile. Enfin, toujours dans ce secteur, les terrasses devront rester fermées entre 8h et 14h. Les commerces, eux, pourront rester ouverts.
Margot Steve pour France Inter. Deux députés du Val d'Oise, la LREM Naïma Mouchou et le LR Antoine Savigny annoncent leur démission de la Cour de justice de la République. Ils refusent, disent-ils, de prendre part à un semblant de justice en raison de la prochaine convocation vendredi d'Éric Dupond-Moretti en vue d'une mise en examen. Le garde des Sceaux est soupçonné de conflit d'intérêts. Il aurait profité de ses fonctions de ministre pour régler des comptes dans des dossiers dans lesquels il avait été impliqué en tant qu'avocat. Au chapitre politique encore, 4 candidats écologistes se sont élancés officiellement dans la course primaire qui aura lieu en septembre en vue de la présidentielle 2022. Il s'agit de la députée Delphine Bateau, de l'eurodéputé Yannick Jadot, du maire de Grenoble Éric Piolle et de l'ancienne numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau. Le projet européen validé par le G20 avait suscité de vives critiques des États-Unis. Finalement, l'Union européenne suspend son projet de taxe numérique, une des nouvelles ressources prévues par l'Union européenne pour financer son plan de relance de 750 milliards d'euros. Mais Washington juge ce projet discriminatoire pour les champions américains des technologies comme Amazon, Google ou Facebook. Selon Éric Vernier, chercheur à l'IRIS, spécialiste de la taxation des GAFA, c'est la stratégie de Washington depuis le départ, depuis l'administration Trump.
La stratégie de Washington se termine par un immense succès puisque au départ, Washington était contre toute taxation et à un moment donné, lorsque Bruno Le Maire a taxé les GAFA de 3% et l'Union européenne qui était en train de suivre justement la France commençait à gêner fortement les États-Unis et dès le départ, nous avons été quelques-uns à dire attention, les États-Unis vont se mettre autour de la table de l'OCDE pour trouver un accord qui finalement leur convient. Et aujourd'hui, on voit bien le résultat, c'est que d'un côté, on a cet accord OCDE de 15% et de l'autre côté, en échange, on va voir disparaître la volonté de l'Union européenne à taxer de son côté ces mêmes géants du numérique.
Des propos recueillis par Laurent Kramer pour France Inter. Comment concilier transition écologique et préservation du secteur automobile ? Emmanuel Macron recevait aujourd'hui les acteurs de la filière en proie à de fortes mutations et qui réclament des aides pour éviter la casse. 100 000 emplois seraient menacés. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Le président de la République plaide pour une transition en douceur.
Oui, alors que Bruxelles pousse au contraire pour accélérer. Après-demain, la Commission européenne va proposer de nouvelles réglementations pour réduire à zéro les émissions de CO2. Les voitures à moteur thermique et hybrides pourraient être bannies des routes dès 2035. Un changement de cap qu'Emmanuel Macron entend, comprend, mais attention, n'allons pas trop vite. Le chef de l'État défend notamment les hybrides rechargeables, ces voitures mi-essence, mi-électrique, qui sont une bonne solution de transition pour l'Élysée, alors que en vrai, 50 000 emplois de la filière dans l'Hexagone sont menacées à terme, si on compte ces hommes et ces femmes qui travaillent justement depuis des années avec un savoir-faire sur des moteurs essence et diesel. Penser électrique et uniquement électrique serait les condamner. Il faut agir de façon raisonnée, insiste l'Élysée. Les hybrides rechargeables, donc, entre autres, sont une solution. Véhicules dont le nombre en circulation ne cesse d'augmenter, de 2,8% du parc en 2020 à 7,8% aujourd'hui, autant que l'électrique, mais plus adapté à l'usage de la majorité des Français. Dans les deux cas, il faudra des bornes pour les recharger. Les acteurs de la filière estiment à 8 milliards d'euros le montant qu'il faudra débloquer pour que demain, accéder à une borne soit aussi simple que d'aller faire le plein à une station-service.
Merci Maxime Debs. L'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, entendu le 26 mai au Liban par des juges d'instruction français, a réfuté toute responsabilité dans le scandale du Dieselgate, scandale dans lequel le groupe automobile est accusé avec d'autres constructeurs d'avoir trompé les tests anti-pollution de véhicules diesel. Les coureurs du Tour de France se reposent en Andorre aujourd'hui avant le dernier coup de collier sur les cimes des Pyrénées que le maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar aborde en position de force et ce à 6 jours de l'arrivée à Paris.
Le Festival de Cannes avec deux absents de marque ce soir sur la croisette.
Oui, la française Léa Seydoux qui aurait dû monter les marches avec l'équipe de The French Dispatch de Wes Anderson à cause de la Covid. Elle est malade. L'autre absent pour des raisons politiques cette fois est Kirill Serebrennikov, le cinéaste russe. A en effet interdiction de quitter son pays. Il purge actuellement une peine de 6 ans de prison avec sursis. Après une condamnation controversée pour détournement de fonds, en guise de soutien, ses acteurs, mais aussi les patrons du festival, ont arboré sur le tapis rouge un badge aux initiales du réalisateur. Et son siège dans le palais des festivals est resté symboliquement vide. Quant à son film, La fièvre de Petrov, eh bien, il a fait sensation lors de sa projection, Alexis de Meyer.
C'est une Russie crépusculaire que filme Serebrennikov, grand opposant à Vladimir Poutine. Dans cette œuvre sombre, le pays est décrit comme un grand corps malade avec un peuple à bout de souffle dont l'espérance en des jours meilleurs est depuis longtemps morte et enterrée. Dans un bus bondé, Petrov enchaîne les quintes de toux. Il est touché par une grippe très contagieuse qu'il ne tarde pas à transmettre à sa femme, puis à son fils. Ce virus qui circule à vitesse grand V évoque bien sûr une certaine actualité pandémique, mais surtout la fièvre procure aux personnages des délires, des hallucinations qui leur permettent d'entrer dans un monde encore plus sombre, mais où leurs frustrations peuvent librement s'exprimer. Des personnages d'ailleurs qui passent leur temps à se laver frénétiquement, comme pour doucher leurs espoirs, en tant désespérément de se défaire de cette violence, cette misogynie, cette corruption qui leur colle à la peau. La mise en scène de Serebrennikov est d'une grande inventivité avec des mouvements de caméra étourdissants et des plans-séquences fiévreux. Cette nervosité n'empêche pas cependant quelques longueurs, mais la formidable BO qui met en avant le hard rock et le rap hardcore a le don de régulièrement relancer la machine.
Merci Alexis de Meyer, et pour le voir en salle, il faudra s'armer d'un peu de patience puisqu'il sera projeté le 1er décembre prochain dans les salles. La montée des marches de l'équipe de French Dispatch de Wes Anderson a lieu dans moins d'une heure maintenant. C'est l'un des films très attendus de ce festival. On y reviendra dans le journal de 19h. Le film met en scène un recueil d'histoires tirées du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle.
Mariam El Kurdi pour le journal. Merci beaucoup Mariam, à tout de suite.
Oui, dans 18h40.
Un jour dans le monde. Absolument, vous nous parlerez notamment d'un prêtre catholique en Inde dont la mort provoque une très vive émotion. Dans un instant, on va s'intéresser à la mise en œuvre d'une nouvelle agence européenne de l'asile. Ça sonne comme une coquille vide comme ça, mais pas tant que ça. Et c'est important parce que les bateaux de migrants sont à nouveau là. L'Europe, toujours en grande difficulté pour s'accorder sur leur sort. Et puis, en deuxième heure, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. On sait bien que Emmanuel Macron va parler ce soir. On attend, bien sûr, on vous demandera à vous quels sont les leviers sur lesquels on peut encore appuyer pour pallier ce variant indien pour qu'il ne soit pas définitivement plus fort que nous. Quel levier? Est-ce que vous êtes prêt à accepter aussi un œil sur le ciel avant?
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Élodie Calac, bonsoir. Décidément, encore attention à la pluie ce soir.
Et oui, exactement. Alors ce soir, cette nuit, les pluies orageuses se renforcent dans l'Est. Elles sont parfois intenses, surtout du Jura à l'Alsace. On a d'ailleurs 5 départements en vigilance orange. Demain, on aura encore de bonnes pluies, parfois soutenues et orageuses, qui concerneront les Alpes, le Nord-Est, les régions allant de la Seine, du nord de la Seine jusqu'à l'ouest du Massif central, aux Charentes et au Midi toulousain.
Et sinon, ailleurs, encore quelques averses, décidément.
Oui, parfois avec un orage l'après-midi, alors ça n'empêchera pas quand même quelques petites éclaircies, et des éclaircies qui reprendront d'ailleurs l'avantage sur la Bretagne, puis près de la Manche l'après-midi. Les températures, elles seront fraîches quasiment partout, avec 17 à 23 degrés. En revanche, le sud-est va tirer son épingle du jeu, avec 26 à 31 degrés, du soleil, mais du vent assez fort, jusqu'à 80 à 90 km à l'heure pour la Tramontane, et 100 km à l'heure du Var à la Corse.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure, après 19h.